Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Une attaque terroriste, une attaque antisémite, disent déjà les autorités américaines. Près de New York, le suspect accusé de s'en être pris à une célébration de Hanouka a été inculpé hier soir. Nous reviendrons sur les faits, sur cette attaque, dès le début de ce journal. Nous irons aussi en Grèce, où pour la première fois hier, une manifestation contre l'avortement était organisée. En France, la grève se poursuit à la RATP et à la SNCF, principalement. Le mouvement contre la réforme des retraites n'est pas prêt de s'arrêter, vous entendrez un cheminot à Orléans dans un instant. Et puis nous avons interrogé des personnels hospitaliers, eux aussi mobilisés. Ils demandent surtout plus de moyens. 54% des infirmiers et des aides-soignants hospitaliers se disent insatisfaits au travail. Un suspect a donc été inculpé de 5 chefs d'accusation pour tentative d'homicide après l'attaque à l'arme blanche ce week-end près de New York. Il s'en est pris à une fête religieuse juive dans la résidence d'un rabbin lors des célébrations de Hanouka. Agression qui a fait 5 blessés et qui a poussé le président Donald Trump à appeler à éradiquer le fléau de l'antisémitisme. Ce sont ses mots. Il n'est pas le seul à avoir réagi, Loïc Loury.
Un acte de terrorisme intérieur, les propos sont ceux du gouverneur de New York, Andrew Cuomo. La police, elle, n'a pas encore confirmé le motif de l'attaque, mais la piste antisémite semble la plus probable. Les faits se sont déroulés à Monsey, quelques dizaines de kilomètres au nord de New York. C'est la résidence d'un rabbin hassidique qui a été prise pour cible. Sur place, au moins 100 personnes réunies pour les célébrations de Hanouka. Un homme y a donc fait irruption avant de poignarder quiconque se trouvait à sa portée. L'individu en question a ensuite tenté, sans succès, de pénétrer dans une synagogue adjacente avant de prendre la fuite. Il sera rattrapé 2 heures plus tard dans le quartier new-yorkais de Harlem, couvert de sang selon un policier. Tout cela alors que les autorités ont enregistré ces derniers mois une recrudescence des actes antisémites dans la région. Nous ne tolérerons pas, affirmait hier le maire de New York, Bill de Blasio, que cela devienne une nouvelle normalité.
Et nous reviendrons sur ces attaques antisémites qui se multiplient outre-Atlantique. Ce sera dans la revue de presse internationale à 7h35 tout à l'heure sur France Culture. L'armée américaine a bombardé hier soir des bases d'une faction armée pro-Iran en Irak, tuant au moins 19 combattants. Il s'agit en fait de représailles ordonnées par Washington 2 jours après une attaque à la roquette qui a tué pour la première fois un civil américain sur une base irakienne. L'Iran est donc visé par les Américains sur le sol irakien. L'Iran critiqué aussi par Paris et qui réplique. Téhéran dénonce l'ingérence de la France dans l'affaire d'une chercheuse détenue. Fariba Adelka est une anthropologue franco-iranienne détenue en Iran depuis le mois de juin sous accusation d'espionnage. Vendredi, les affaires étrangères françaises avaient convoqué l'ambassadeur d'Iran à Paris pour dénoncer la détention intolérable de cette chercheuse qui a entamé une grève de la faim. Son collègue Roland Marchal est également détenu depuis 6 mois en Iran. Partons maintenant en Grèce où les signaux contre les droits des femmes se multiplient. Outre toute une série d'allocations arbitraires pour les mères de plusieurs enfants ou pour celles qui accouchent avant 30 ans, était fêtée hier en Grèce la journée de l'enfant pas né. Autrement dit, une manifestation des anti-IVG contre l'avortement. Angélique Cournis l'a suivie pour nous.
Pour la première fois dans l'histoire du pays, on a fêté la journée de l'enfant pas né, instaurée officiellement le premier dimanche après Noël par le gouvernement conservateur dès son arrivée au pouvoir en juillet dernier, sur la demande expresse de l'Église grecque qui met en avant un réel problème de démographie. Depuis la crise, il y a presque 10 ans, les décès dépassent constamment les naissances et pour Mgr Gabriel, il faut agir.
C'est un vrai problème qui touche la Grèce et plus largement toute l'Europe. Sur la base des chiffres disponibles, les morts dépassent les naissances de plusieurs milliers depuis très longtemps. Si on continue entre 2030 et 2050, la population aura baissé de 20 à 25%.
La messe de ce dimanche est donc à marquer d'une pierre noire pour les féministes. Outre les sévères sermons en faveur de l'enfant pas né, autrement dit contre l'avortement, des tracts ont été distribués dans les églises du pays. Mais à la sortie de la messe, les avis sont mitigés. Panayota, mère de 2 enfants, refuse de prendre parti.
L'enfant à naître doit être protégé, mais c'est à chaque femme de décider. Elles n'ont qu'à revendiquer leurs droits et les organisations anti-avortement aussi.
But de l'opération pour l'Église, à terme, faire capoter la loi sur les avortements qui, en Grèce, font office de contraception. 40 000 sont déclarés chaque année, mais on estime le chiffre réel à 300 000. C'est un marché très lucratif pour les gynécologues qui, du coup, en majorité, s'opposent à toute autre forme de contraception. Pour le gouvernement, il s'agit plutôt de mettre en place une politique nataliste très prisée sur sa droite, voire extrême droite. Les mouvements féministes, eux, ont prévu pour leur part toute une série de manifestations.
C'était Angélique Kourounis à Athènes pour France Culture. Les forces gouvernementales ukrainiennes et les séparatistes pro-russes de l'État de l'Ukraine ont achevé hier l'échange de leurs derniers prisonniers. Cela fait suite à un accord conclu le 10 décembre dernier par les dirigeants Vladimir Poutine, le russe, et Volodymyr Zelensky, l'ukrainien. La présidence ukrainienne indique ainsi que 76 de ses ressortissants ont retrouvé leur foyer 5 ans après le début du conflit. Le ton se durcit entre le gouvernement français et la CGT, le premier accusant l'autre de mener un syndicalisme de blocage. La grève, en tout cas contre la réforme des retraites, continue chez les cheminots ce lundi. 26e journée consécutive, la SNCF prévoit ainsi un TGV sur deux aujourd'hui. Et dans différentes gares en France, des assemblées générales vont se tenir pour voter la reconduction ou non de ce mouvement, jusqu'à vendredi au moins. Et ce sera le cas, la reconduction du mouvement, ce sera le cas a priori devant la gare des Aubrais aujourd'hui, près d'Orléans. Pour faire durer le mouvement, les cheminots cherchent aussi à se renouveler. Ils ont quelques idées. Écoutez à ce propos Jérôme, conducteur de train à Orléans depuis 3 ans.
On peut pas perdre de l'argent depuis le 5 décembre et venir avec le sourire tout le temps. Donc je pense qu'on va essayer de trouver de nouvelles idées. On a fait le Noël des grévistes. Tout à l'heure, on évoquait de faire les nouvelles résolutions des syndiquets. Nos résolutions seront les mêmes que cette année. Ça veut dire qu'on ne changera pas de cap. Il faut que les gens comprennent qu'on lâchera pas. Il faut qu'on arrive à rassembler les gens. Il faut qu'on aille voir les usagers. Il faut qu'on aille voir tous les secteurs privés, publics. La dernière fois, on a fait une grosse action sur un rond-point. On a essayé de discuter avec les gens qui étaient dans le bouchon. Donc certains étaient mécontents. Je le conçois, quoi. Mais enfin, après, s'ils ont des idées d'action pour que ça marche, autre que bloquer les trains, nous on est preneurs. On est prêts à mettre un simulateur au milieu de la gare. Ils verront si ils vont gagner de l'argent avec la nouvelle retraite par contre. Il faut qu'ils soient avec nous, il faut qu'ils nous soutiennent.
Des propos recueillis par Marine Protet de France Bleu Orléans pour France Culture. Mobilisés eux aussi, les personnels hospitaliers. De nombreux services sont toujours en grève. Ils demandent davantage de moyens. Selon le baromètre carnet de santé réalisé ce matin par Odoxa pour la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, leur morale d'ailleurs est au plus bas. Ce sondage réalisé sur Internet entre le 16 et le 20 décembre dernier auprès de 936 professionnels de santé hospitaliers est sans appel. Alors que plus des 3/4 des Français se disent satisfaits au travail, les infirmiers et les aides-soignants hospitaliers, eux, sont majoritairement insatisfaits, à 54%. C'est d'ailleurs 6 points de plus qu'en septembre. La preuve avec ces témoignages recueillis à Toulouse par Clémence Fuléda.
Cela fait 28 ans que Diami est aide-soignante. Elle travaille à Purpan pour 1 780 € bruts par mois.
Déjà d'une, c'est une vocation. Donc, c'est l'humain qui est au cœur de notre métier. Quand vous allez à l'hôpital, vous êtes vulnérable. Donc les soignants, avec leurs compétences et tout ce qui s'ensuit, l'éducation aussi, et puis le reconfort des patients, je vais dire, voilà, c'est l'humain qui parle. C'est ça qui me plaît.
Oui, mais comment continuer quand les patients affluent et que les taux financiers se resserrent? Benoît Dupuis, aide-soignant aux urgences et encarté chez Sud.
Il m'est arrivé de faire des nuits aux urgences où, sur mes 10 heures de travail, j'ai vu entre 20 et 25 patients. Donc je vous laisse décompter le temps que j'ai à m'occuper de chaque patient, tout en sachant que je suis à deux doigts de compter le café que je vais donner à un accompagnant qui est là depuis 5 heures, parce que c'est pas prévu dans le protocole. On devient inhumain, quoi. Enfin.
Et pourtant, ils sont là, parce qu'ils ne se voient pas faire autre chose, oui, mais aussi parce qu'ils croient en l'hôpital public. Aurélie, infirmière en traumatologie.
Un jour ou l'autre, tout le monde peut avoir besoin de l'hôpital et le voir se délabrer alors que les compétences sont là, que les envies sont encore là de bien faire les choses. Moi, je pense que ça mérite qu'on se batte pour sauver l'hôpital.
Un hôpital public où l'on sort sa carte vitale avant de sortir sa carte bleue.
Elle vient de passer le 1 000 000 de signatures. La pétition de l'association Nous voulons des coquelicots semble convaincre largement. Une pétition qui demande la suppression des pesticides de synthèse. Pour France Culture, Dounia Mayedine s'est penchée sur les pesticides utilisés régulièrement dans les stades sportifs.
Le pissenlit, la pâquerette ou le trèfle rouge empêchent-ils vraiment de jouer au foot? Les complexes sportifs ont déclaré la guerre aux mauvaises herbes afin de préserver une bonne qualité des pelouses. Pour cela, ce sont des pesticides de synthèse qui sont utilisés, mais qui ne sont pas sans danger. Dans une tribune publiée dans le journal Libération en 2018, des médecins et chercheurs ont alerté sur l'emploi de ces fongicides. Leur inhalation peut provoquer des cancers ou des maladies telles que Parkinson. Pour François Vaillerette, membre de l'association et président de Génération Future, les pesticides doivent au minimum être bannis des terrains sportifs.
Peut-être que pour la Coupe d'Europe ou le championnat du monde, on veut bien entendre qu'il faut avoir un gazon qui soit à la perfection. Mais après, pour tout le sport populaire, amateur, etc., il n'y a pas nécessité d'avoir une telle perfection des gazons. Et dans un premier temps, au moins, faire en sorte que les terrains amateurs et de sport populaire soient gérés sans pesticides de synthèse. D'ailleurs, c'est déjà le cas dans certains clubs où finalement l'entretien se limite à tonte, un peu soignée, à du roulage. Et voilà, on ne fait pas du sport pour s'exposer à des produits dangereux. On fait du sport pour tous les bienfaits qu'il procure, notamment au niveau sanitaire.
Après un an de tests en 2010, la ville de Rennes a renoncé au traitement phytosanitaire sur la totalité de ses terrains de sport, à l'exception du stade Rennais où joue l'équipe de Ligue 1, comme l'explique Daniel Guillotin, élu à l'écologie urbaine de la ville.
Depuis 1997, on avait déjà arrêté l'utilisation des produits phytosanitaires sur les espaces verts de la ville. Et donc, d'un point de vue santé, c'était de se dire qu'il faut qu'on aille plus loin, de regarder aussi côté terrain de sport. On souhaite, notamment en plein hiver, cette période qui est très humide, on joue moins sur le terrain parce que ça va le dégrader. Ça demande plus de moyens, plus de temps en termes d'entretien.
Et cette question des pesticides sur les terrains de sport a fait l'objet d'un colloque au Sénat en novembre dernier, durant lequel a émergé la perspective d'une proposition de loi en 2020 afin de les interdire.
C'était Dounia Mayedine pour France Culture. Les nuages bas du matin devraient s'estomper au fil de la journée sur la France métropolitaine pour laisser place à de belles éclaircies ce lundi. Le tout sous des températures qui se rafraîchissent. Il fait ce matin moins 1 à Strasbourg, 1 degré seulement à Lille, Bordeaux et Lyon, 2 à Paris, 4 à Bayonne, 9 degrés à Marseille.